Radio Kapi.
Oh, Kapi.
L'épidémie d'Ebola est déclarée terminée dans la zone de santé de Boulapé au Kassai. Après 42 jours sans nouveau cas, le ministre de la Santé, Roger Kamba, salue une riposte rapide conduite avec l'appui de l'OMS. En Ituri, un grand producteur de cacao a été enlevé puis tué à Maniema, dans le territoire de Mambasa. Des défenseurs de droits humains alertent sur la recrudescence d'attaques similaires et appellent les services de sécurité à agir face aux incursions d'hommes armés. Notre invité est Georges Cauchy, le président de la commission interministérielle des expropriations. Il reviendra sur l'indemnisation d'une centaine de personnes dans la deuxième phase du projet de la route des rocades à Kinshasa et réaffirme l'engagement du gouvernement envers les familles affectées. Bonjour à tous. Au fin de l'épidémie d'Ebola dans la zone de santé de Boulapé au Kassai, l'annonce a été faite hier lundi par le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba. Aucun nouveau cas n'ayant été signalé au cours des 42 derniers jours depuis la guérison du dernier patient le 19 octobre, les autorités considèrent désormais que l'épidémie est terminée. Selon l'OMS, la riposte rapide et coordonnée du ministère de la Santé, appuyée par l'Organisation mondiale de la Santé et plusieurs partenaires, a été déterminée pour freiner la propagation du virus dans cette zone rurale difficile d'accès. Au total, l'épidémie aura touché 64 personnes, dont 53 cas confirmés et 11 probables, et fait 45 morts. On écoute le ministre de la Santé, le docteur Samuel Roger Kamba, dans cet extrait choisi par Poli Mousalia.
Aujourd'hui, c'est un jour très important pour le ministère de la Santé, parce que rarement nous avons des bonnes nouvelles. Nous sommes souvent là pour annoncer le début d'une épidémie, mais aujourd'hui nous sommes là pour annoncer la fin d'une épidémie. Ceci résulte effectivement du fruit de l'expérience de plusieurs épidémies. Nous avons vérifié que nous avions les molécules capables de soigner nos malades, nous avons vérifié que nous avions les vaccins, et surtout nous sommes tournés vers les partenaires, et particulièrement vers les États-Unis d'Amérique et le CDC Atlanta, pour pouvoir avoir les tests, pour pouvoir avoir un complément des médicaments, et surtout pour avoir le soutien technique, et cela nous l'avons obtenu. Nous sommes tournés vers l'OMS, nous sommes tournés vers Médecins Sans Frontières, et donc je voudrais rendre hommage à tout ce partenariat pour que notre pays se rappelle qu'il n'a pas été seul quand il a fallu se battre contre Ebola.
Et sur place, dans la zone de santé de Boulapé, au territoire de Mweka, la joie est immense dans la communauté. Le chef du groupement de Boulapé indique que la présence de la maladie dans cette région constituait un danger de mort. Héritier Bopé invite ses sujets au respect des mesures barrières. Il est joint au téléphone par André Katendengala Mouloumé.
Nous sommes très contents car la présence de la maladie à virus Ebola parmi nous était synonyme de la mort. Lorsque l'on a déclaré la fin de l'épidémie, nous sommes passés de la mort à la vie. On avait peur de la mort parce que quand Ebola est dans un village, c'est la mort. J'ai dit aux habitants de Boulapé que l'épidémie est terminée, on peut se réjouir tout en restant dans le respect des mesures barrières pour éviter la maladie de main sale. Nous devons respecter les mesures barrières pour ne pas enregistrer une autre épidémie. Nous devons garder ces rythmes pour éviter toutes sortes de maladies.
Mais quelle étape suivra cette déclaration de la fin de l'épidémie d'Ebola à Boulapé? La question a été posée au docteur Dieudonné Mwamba, directeur de l'Institut national de santé publique, structure étatique qui était dans la riposte contre l'épidémie. Il fait savoir que dans les 90 jours qui suivent, soit 3 mois, les activités de résilience seront organisées dans la zone de santé de Boulapé ainsi que dans les zones environnantes. Cela consiste à fournir des services sociaux de base tels que l'eau et appuyer les structures sanitaires. Docteur Dieudonné Mwamba est également joint au téléphone par André Katinde Ngalamouloumé.
Non, on ne va pas abandonner la zone. Quand ça fait la déclaration de la fin de l'épidémie, nous commençons une période de 90 jours avec un plan de résilience pour renforcer le système de santé dans la zone santé de Boulapé et même dans les zones autour. Par exemple, déjà on a eu à commencer pendant la riposte à faire des adductions d'eau à Boulapé parce qu'il y avait dans l'eau qui coule au niveau de l'hôpital et dans la communauté. Nous allons renforcer les structures de santé avec des réhabilitations, des dotations, des engins, des équipements et continuer avec des formations pour être sûr que dans la zone santé de Boulak et les zones voisines, nous allons vraiment laisser un système de santé renforcé avec des capacités même de diagnostic. Nous allons voir comment doter cette zone d'un laboratoire capable de poser le diagnostic d'Ebola et même des autres maladies. Donc voilà tout ce qui va se faire dans les 90 jours et même au-delà des 90 jours. C'est vraiment le plan de résilience pour renforcer le système de santé dans cette zone.
Rendons-nous en Ituri, au village de Maniama, dans le territoire de Mambasa. Là-bas, un de grands agriculteurs de cacao a été enlevé et tué par des hommes armés lundi dans son champ. Selon des activistes de droits humains dans la région, des dizaines de cas similaires sont déjà enregistrés en l'espace de 2 mois dans cette région où plusieurs hommes en armes sont en errance. Ils interpellent les services de sécurité de garantir la sécurité des personnes et leurs biens dans cette zone plusieurs fois victime d'activisme des rebelles des ADF. Martial Kiza Biamongo nous en parle.
La victime a été enlevée par des inconnus armés dimanche dans son champ situé à 15 km de Biakato Centre. Hier lundi, il a été retrouvé mort. Des activistes de défense des droits humains dans la zone dénoncent cet énième crime qui s'ajoute à une dizaine d'autres enregistrés dans des circonstances similaires depuis quelques semaines. La particularité de ces assassinats est qu'ils ciblent tous des agriculteurs de la filière cacao, une culture devenue rentable dans cette entité. Cette situation accentue de nouveau l'insécurité dans cette zone où on signale des mouvements d'hommes armés en provenance du Nord Kivu, indique un acteur de la Convention pour le respect des droits humains, CRDH, une structure de défense des droits humains très active dans la région. Rams Ramazani demande à l'armée de mettre la main sur les auteurs de ces actes crapuleux qui, selon lui, prennent de l'ampleur dans les territoires de Mambasa depuis des mois. Nous n'avons pas réussi à voir l'administrateur du territoire à ce sujet. Bounia, Mars Kizabiabongu, Radio Okapi.
Au sud Kivu, des tirs nourris ont été entendus ce mardi matin dans la chefferie de Kaziba au territoire de Walungu. Des violents affrontements opposent en effet les FARDC aux rebelles de l'AFC M23 depuis 3h du matin dans cette partie de la province. Les habitants restent terrés dans leurs maisons et pour l'instant, il est difficile de dresser un quelconque bilan. À la base de cette altercation, une question de repositionnement des deux côtés des belligérants, explique des témoins. Reportage.
Tout Kaziba est assourdi par de fortes détonations à l'arme lourde. Des sources militaires font état d'usage des missiles sol-air, ce qui fait craindre des dégâts collatéraux au sein des populations civiles prises en étau entre deux feux. Les hauts plateaux de Kaziba sont les principales cibles des belligérants. Les uns sont positionnés sur la colline d'Enguka avec l'intention de déloger l'autre camp de Kaziba Centre. Ces affrontements se répercutent directement sur d'autres entités environnantes de Kaziba vers la plaine de la Ruzizi. Katogota, Luvungi, Lubarika et Kamanyola Centre sont dans la torpeur. Enobi vient de tomber sur une maison résidentielle à Kamanyola, entraînant des morts sans d'autres précisions. Sur le plan humanitaire, la situation est désastreuse. Toutes les voies d'approvisionnement sont bloquées, rendant ainsi la population incapable d'accéder aux biens de première nécessité. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
L'Assemblée nationale a examiné au cours de la plénière d'hier lundi le projet de loi complétant la loi du 15 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement de la Cour constitutionnelle défendu par le député Paul Gaspard Ngondakoy. Ce texte vise notamment à mettre fin au conflit de compétences entre la Cour constitutionnelle et les autres ordres juridictionnels, à corriger selon lui les lacunes constatées depuis des décennies dans l'application de la loi organique en vigueur. On écoute les députés Paul Gaspard Ngondakoy dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
La présente loi organique qui modifie, complète et restructure plusieurs dispositions de la loi existante poursuit plusieurs objectifs. Il s'agit, primo, de clarifier certains concepts de base afin d'éviter des interprétations divergentes. Secondo, préciser la nature et la place de la Cour constitutionnelle afin de mieux comprendre son rôle au sein du pouvoir judiciaire. Tertio, renforcer les conditions de nomination des juges en insistant notamment sur les critères de leur connaissance et de leurs expériences dans le domaine du droit constitutionnel. Quarto, préciser les conditions d'organisation obligatoires du tirage au sort lors des renouvellements tertiaires et ternaires des juges. Le tirage au sort qui est prévu par la Constitution pour renouveler tous les 3 ans par tiers les membres de la Cour constitutionnelle est rendu obligatoire pour donner à cette exigence une double fonction qu'elle a. Le tirage au sort, le renouvellement permet la respiration de la Cour par l'entrée de nouvelles personnes, enrichir la jurisprudence existante.
Déclaré recevable par les députés nationaux, ce texte a été transmis à la Commission politique, administrative et juridique pour un délai de 7 jours en vue d'examiner de manière approfondie les différentes recommandations formulées par la plénière. Au Maniema, les femmes politiques plaident auprès du cadre permanent des concertations pour la femme congolaise CAFCO de mener des plaidoyers auprès des responsables de partis politiques afin d'accorder des crédits aux femmes potentielles candidates. Ces crédits dont les intérêts vont revenir aux partis permettront à ces femmes politiques de réaliser quelques activités génératrices de revenus pouvant leur permettre d'avoir des moyens pour battre campagne. L'une d'elles, Madame Béatrice Mukombe, et s'exprime au micro de Florence Kizalunga.
Par rapport au développement de la femme politique, parmi les obstacles qui font à ce que les femmes ne soient pas élues en République démocratique du Congo et en particulier ici chez nous au Maniema, c'est les moyens financiers. Parce que la femme demeure toujours pauvre. C'est pourquoi que nous formulons les recommandations auprès de CAFCO de mener des plaidoyers auprès des partis politiques et surtout aux secrétaires généraux des partis politiques qui gèrent les 10% des revenus de tous membres ayant réussi le mandat des partis politiques pour travailler soit dans le gouvernement, tant national que provincial, les députés qui ont été élus avec le mandat du parti à tous les niveaux, de prendre cet argent-là et d'accorder des crédits aux femmes potentielles candidate et fait circuler cet argent et que les intérêts vont les revenir et s'en serviront pour battre campagne au moment des élections.
Actualité internationale.
VIH, les Swatini et la Zambie annoncent le début des injections de lenacapavir. C'est un traitement pour se prévenir du VIH jugé révolutionnaire. Lenacapavir permet une protection presque totale avec une efficacité qui frôle les 100% en 2 injections par an. Une avancée notable puisque jusqu'ici, les traitements de prévention demandaient une prise quotidienne de médicaments. En Afrique, les Swatini et la Zambie ont profité de la journée mondiale de lutte contre les sida hier lundi 1er décembre pour annoncer le début des injections. L'Afrique du Sud devrait suivre d'ici à quelques mois.
L'invité.
Au moins 150 personnes ont été indemnisées dans le cadre de la deuxième phase liée au projet de construction de la route des rocades à Kinshasa. Invité de Radio Capi, le président de la commission interministérielle chargée des expropriations, Georges Cauchy, salue la patience des bénéficiaires. Il réaffirme également la volonté du gouvernement de la République démocratique du Congo d'honorer ses engagements envers toutes les personnes impactées par ce projet routier. Georges Cauchy s'entretient ici avec Blaise Ndongala.
Bonjour monsieur le secrétaire général.
Bonjour monsieur le journaliste.
Quel état de lieu dressez-vous du processus d'indemnisation des victimes du tracé du projet Rocade après avoir fait la ronde?
Mais après avoir fait la ronde, je trouve que le processus est en cours et que ça fonctionne correctement tel que nous l'avons prévu parce que nous avons été mandatés par le ministre des infrastructures et ministre de travaux publics John Banza pour voir dans quelle mesure résoudre le petit problème qui suit encore aujourd'hui pour la bonne marche, la construction des rocades.
Combien de propriétaires sont éligibles pour le moment, donc en ordre de paiement par rapport à cette opération?
En ordre de paiement, il y a 580 personnes sur 3800. La raison est le simple, c'est qu'il y a beaucoup qui n'ont pas encore négocié et d'autres qui n'ont pas de documents officiels. Par documents officiels, entendez les titres fonciers. Sans titres fonciers, il n'y a pas de négociation. Donc, bon, on ne peut pas vous payer non plus. Parce que l'État ne vous reconnaît pas comme propriétaire. C'est pour cela que l'État a résolu par le chef de l'État lui-même de résoudre ce problème en urgence, c'est-à-dire préfinancer ces personnes impactées, payer pour eux, qu'ils négocient, et en retour, lors du paiement, qu'on récupère de l'argent payé.
Lors de la première phase, combien vous avez déjà payé? Et cette deuxième phase qui vient de commencer, combien sont attendus?
Lors de la première phase, sur les 5 100 000 disponibles, on a payé presque 3 800 000. Nous avons privilégié l'intersection des rocades avec la RN1. Ce n'était pas encore prévu, mais nous avons prévu le paiement parce que les travaux doivent aller très vite. C'est ça la différence de 5 100 000 avec les 3 millions et quelques pays. Donc on a du mou pour payer les autres qui se retrouvent sur l'intersection, qu'on continue à payer jusqu'à présent. Pour la deuxième phase, nous avons 4 millions et les 4 millions, c'est pour payer 104 impactés.
Qu'en est-il, monsieur le secrétaire général, des propriétaires n'ayant pas des documents requis?
Pour ceux qui n'ont pas des documents requis, le chef de l'État a demandé à ce qu'on puisse les aider et avoir des documents de manière à leur permettre de venir négocier. De ne mettre personne de côté. Il faut payer tout le monde. Nous avons déjà payé une partie au ministère des Affaires foncières qui commence déjà à élaborer des documents, des titres fonciers pour ces personnes-là.
En cette phase, quel est le message que vous pouvez lancer aux Quinois qui attendent avec impatience cette route des rocades?
Ben, j'ai dit à tous les Quinoises et Quinois qu'ils aient confiance au gouvernement, qu'ils aient confiance à leur commission interministérielle en charge des expropriations, qu'ils aient confiance aux membres du comité de pilotage que compose le ministre en charge des infrastructures et travaux publics, le ministre des Affaires foncières, le ministre de l'Aménagement du territoire, ainsi que celui de l'urbanisme et habitat. Les travaux vont bon train, les problèmes on en a toujours, mais on est tenu à les résoudre. Nous sommes des hommes, on est là pour ça, et on est là aussi aujourd'hui pour résoudre certains problèmes, parce qu'il y a quelques points d'achoppement entre le riverain et les entreprises. Si nous sommes là, c'est pour les résoudre.
Êtes-vous sûr de respecter les délais requis pour 2027, enfin de remettre ou de la remise de cette route?
Je suis sûr à 1000% que fin 2027, les rocades seront inaugurées.
Monsieur Georges Cauchy, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions.
Merci, messieurs les journalistes.
Merci Blaise, on sent que vous étiez en plein chantier hein, des rocades de route de Kinshasa. Merci pour cet entretien et merci à vous, chers auditeurs, d'avoir suivi ce journal qui a été coordonné par Élisée Chikota sous la supervision de Livine Mwinga. Alain Goy était à la technique, Jocelyne Moussa Opondé à la présentation. Bonne suite au programme sur la fréquence de la paix.